Ouais, je parle plus vite. La vision. Juste mentionner le thème, il me semble. C'est un sujet bâillard, tu sais, qui porte à bâiller. On nomme le sujet, c'est comme bon, vous cordez tout du bois. Ah, Stéphane. Sur les épaules des géants. On va voir c'est qui les géants tantôt. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un message qui va se durer en fait 2 semaines, dimanche matin prochain. Ça va être la continuité de celle-là, mais si vous n'êtes pas là, ou si vous êtes là la semaine prochaine, et ceux qui nous écoutent et que vous vous pointez, si vous n'êtes pas obligé, un ne va pas nécessairement à la suite de l'autre, mais ça fait partie du même thème. Et j'aimerais parler de la vision dans l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine, ici particulièrement. Et si vous êtes un visiteur dans notre Église, inquiétez-vous pas, il va y avoir des applications pour vous aussi, et je vais vous interpeller à prendre des décisions, parce que la vision, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas le rôle nécessairement des anciens, des diacres et des autres. Et pour être certain qu'on comprenne de quoi qu'on parle, on va l'afficher en permanence sur le mur ici. Mais c'est ça qu'on parle. Notre énoncé de mission à nous, à Cap-la-Madeleine, on le fait comme ceci. On va le résumer ici. Glorifier sa personne, réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ, faire chaque disciple un adulte dans la foi et dans sa conduite, qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres croyants et qui s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. Et ça, c'est en quelque sorte ce qui dirige les principes de notre Assemblée. Et en parlant de vision, quelqu'un qui disait que la vision, c'est voir les choses comme le Seigneur les voit. Il faut donc sortir de notre zone de confort. Quelques réflexions avant de commencer. Un, ce n'est pas une commande de la part des anciens que j'ai de parler de ça. C'est une initiative un peu personnelle. Ça me fait toujours penser à un professeur de philosophie qui disait à sa classe comme examen, la question était unique, elle était « qu'est-ce qu'un risque? » La réponse, c'est ça. Et mon but, c'est vraiment pas d'amener une nouvelle vision. Je veux prendre la vision qui accable la Madeleine et la mettre de l'avant. On a une jeunesse qui a grandi dans l'Église et puis sont devenus des jeunes adultes. Et hier, au feu de camp, j'accueillais chez nous le face-à-face et dans la discussion autour du feu de camp, pour ceux qui y restaient, j'ai posé la question, comment vous voyez l'Église, vous, dans 10 ans? Ça va être vous autres là, qui va. Et la première réponse qui a été donnée, ça a été, il faut qu'on nous le dise, c'est quoi? C'est la première réponse. Et ça confirmait pas mal mon désir de partager sur ce sujet. Et troisièmement, il n'y a pas de texte dans la Bible, et s'il y en a un, je dois confesser mon ignorance, de 14 étapes dans lesquelles on doit installer une vision dans l'Église. Et donc, je vais regarder 3 choses à partir de plusieurs textes différents qui vont nous interpeller. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment prendre la parole et puis l'appliquer. Et puis en même temps, évidemment, nous relever un défi. Notre formule, c'est celle-ci. Un énoncé de mission annonce quelque chose, annonce un contenu. Et c'est sur ce contenu qu'il faut porter notre attention. Les technicalités autour sont importantes, mais le centre de l'énoncé, c'est le contenu qu'il véhicule. Et la semaine prochaine, on va regarder plus en détail grâce. G-R-A-C-E, les 5 points, et on va analyser ces choses-là, comment qu'on peut appliquer ça pour nous, autant dans notre vie, dans notre Église et dans notre service. Mais la vision doit être quelque chose qui nous interpelle activement dans nos vies. Elle doit avoir des répercussions. Vous choisissez de participer au service d'une Église, elle doit attirer votre attention en quelque part, elle doit nous amener vers le message central, puis nous, on est chanceux, c'est la grâce de Dieu. Et donc, ça doit nous interpeller dans nos relations, dans nos façons de fonctionner, dans notre organisation. Et aujourd'hui, pour lancer le sujet, je crois qu'il est extrêmement bien de commencer par une réflexion sur nos géants. Et je vous invite à tourner dans Hébreux chapitre 13 et on va lire le verset 7 et 8. Je sais qu'il y en a qui viennent de réaliser à quel texte que je fais allusion. Chapitre 13, c'est une série d'exhortations pratiques à persévérer dans le mariage, comment qu'on gère l'argent, l'adoration, et puis on vient au verset 7. Et puis dans cette série d'exhortations, il nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Une vision. Deux dictionnaires donnent ces définitions. La première, manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose. Un deuxième dictionnaire qui nous dit la vision sert de fondement à la planification stratégique dans une organisation. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les épaules des géants. Parce que si on s'interroge aujourd'hui sur notre vision et notre futur en tant qu'Église, et notre place au sein de cette Église, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous ont précédés. On fait partie d'une assemblée qui a près de 65 ans d'existence. Et les géants auxquels que je veux faire face, c'est une expression d'un astronome anglais, Robert Hooke, qui parlait des épaules des géants. Et lui, son expression, c'était que le principe est très clair et le message est très percutant et très d'actualité. C'est que son principe, c'était « on ne fait pas de physique ou d'astronomie seul chez nous dans notre bibliothèque. » Parce qu'il y a des personnes qui nous ont précédés. Et nous, on arrive des générations après. Et même si on a remplacé la physique de Newton et de Socrate et de toutes les autres, il ne faut pas négliger parce qu'eux ont posé un fondement sur lequel nous, on a une base pour continuer. C'est comme s'il nous disait, puis en fait, c'est ce qu'il dit, « Si j'ai pu faire ces études et avancer mes recherches, c'est parce que des géants m'ont précédé. » Et aujourd'hui, c'est exactement la même idée que j'ai en tête. J'aimerais qu'on réfléchisse sur deux géants de notre Église. Ils ne savent pas, parce que si je leur aurais demandé la permission de faire ce que je vais faire, ils m'auraient dit probablement « Fais-les pas ». Et je veux parler de Doug Virgin et de Michel Penneau. Mais je ne veux pas ignorer tous les autres anciens qui ont passé dans l'Église, qui ont passé. Mais là, ici, il nous parle des héros de la foi. Et ces deux personnes, je les connais. Bien, en fait, eux autres me connaissent depuis que je suis tout petit, parce que je suis venu à l'Assemblée ici, je suis reparti. Et quand je suis revenu 10 ans, 15 ans plus tard, il est encore ici à enseigner la parole jour après jour, et dans des classes le dimanche. Et ils se sont impliqués, c'est en quelque sorte mes héros de la foi. Et non pas mes zéros de la foi, mes héros de la foi, c'est important. Et certains d'entre vous connaissez ces personnes mieux que moi. Et ce que je vais faire présentement, c'est attirer l'attention sur quelques détails de leur vie qui nous amènent à réfléchir sur la vision. Parce qu'ils nous ont précédés. Ils ont bâti pendant plus de 30 ans dans l'Église ou 40 ans dans notre Église et ils ont eu une vision, il y avait une planification stratégique. Ils nous donnent un héritage. Et commençons par Doug Virgin. Doug, vous le connaissez, docteur des Écritures, étudiant professionnel, commandé à l'œuvre qui n'a jamais profité. Il a subvenu à ses besoins. Lui-même, l'Assemblée l'a soutenu dans des moments plus difficiles. Mais il a donné, malgré qu'il travaillait à temps plein à construire publication chrétienne, il a donné probablement le plus d'heures pour le peuple de Dieu dans notre Église. Et il y a des personnes qui peuvent témoigner de ça beaucoup. C'est un prédicateur qui est reconnu au Québec, aux États-Unis. Il arrive d'un voyage en Europe, il a fait je ne sais plus combien d'églises. Et puis, quand on parle à Doug, il est difficile de trouver une situation dans laquelle il n'a pas été confronté. C'est difficile. Les questions de discipline dans l'Église, je pense qu'il les a toutes vues. Il a passé des périodes difficiles. Il est allé conseiller dans d'autres églises. Il prêche encore dans d'autres églises. Il étudie des heures et des heures. Il doit passer Et Gilles Despins me disait qu'il doit passer à peu près une heure d'étude par minute de prédication. C'est un modèle pour moi. J'ai écouté des centaines de prédications de Doug. J'ai analysé le contenu, la forme, la façon qu'il l'amène. J'ai suivi des cours d'homilétique avec il y a plusieurs années. Il est un pilier dans ma vie. Il a marqué ma jeunesse. Doug, vous lui demandez, es-tu parfait? C'est sûr qu'il va dire non. Il ne l'est pas. Il le sait. Mais quand même, malgré toutes ses erreurs, il a vécu sa foi. On peut pratiquement dire que c'est un puritain. Ceux qui connaissent les puritains, on étudie la vie de Doug, on étudie sa théologie, ça va ensemble. Et lui nous interpelle à connaître Dieu. Et ces derniers temps, j'ai vu Doug mettre beaucoup d'énergie avec Gilles Despins pour construire l'école théologique Profac. À Montréal, avec une conférence à Don Carson, je vois Doug se présenter, puis il s'en venait négocier une entente avec un groupe haïtien pour augmenter le nombre dans l'école, puis qu'il, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là, il débarque là. Tu sais, il négocie, il est toujours en train de vouloir mettre la parole de Dieu de l'avant. Et s'il peut faire ça, c'est évidemment parce qu'il y a une épouse qui a soutenu son ministère. Et Hélène participe aussi activement dans l'Église, que ce soit avec le son, que ce soit avec l'hospitalité, que ce soit avec... On la voit dans l'Église qui s'implique. Et ça devrait être un modèle pour nous, ben pour vous, jeunes femmes, aussi. Et de façon personnelle, et je suis content, Doug est là, j'aimerais lui souligner mon appréciation dans ma vie. Et je suis sûr que l'Assemblée peut se joindre à moi. Michel Penneau, malheureusement, il n'est pas ici, il est en vacances. Il va nous écouter sur Internet probablement, mais qu'il sache qu'est-ce que j'ai fait. Cœur vivant, berger de vos âmes, cette personne, avec le nombre d'heures d'études, est devenue un habile praticien de la parole de Dieu à appliquer dans notre vie. Il étudie la parole, il veut l'appliquer, ça se voit dans ses prédications. Il est enthousiaste à étudier la parole, puis il veut qu'on vive une vie équilibrée, et il veut qu'on trouve cet équilibre et cette joie en Dieu, parce qu'il y a une vision pour notre âme. Il y a une vision pour l'âme humaine. Il évangélise dans plusieurs places. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michel dans plusieurs situations. Il m'a accueilli officiellement sur un souper chez nous il y a quasiment une dizaine d'années, quand on est devenu membre. Je l'ai vu aller dans l'accueil, je l'ai vu aller avec des robineux qui quêtaient. Je l'ai vu aller avec des personnes qui rentraient dans l'église, on savait pas s'ils feraient du trouble, et il fallait qu'ils interviennent avec ces personnes, et ils voulaient aller toucher le cœur de ces personnes, mais tu as 3 minutes pour parler avec la personne. Et tout de suite, le désir de Michel de dire, regarde, j'ai une chance peut-être dans ta vie de toucher ton cœur. Et sa passion pour la parole de Dieu s'est transmise dans l'église, et là, je passe beaucoup de situations, et si... Il donne tant de temps pour la prédication, c'est parce qu'il croit à votre âme. Il croit à l'équilibre que peut apporter la parole de Dieu dans nos vies. Il enseigne les épîtres de Jean à Bethel depuis des années. J'ai rencontré Michel dans des temps extrêmement difficiles dans sa vie. Et encore là, il trouvait une joie à partager les bienfaits que Dieu y fait. Et quand on va chez eux, appuyé par sa femme, qui, elle, manifeste une hospitalité, même quand on sait que ça va pas bien. Je m'en vais pour les exhorter, puis c'est eux autres qui, finalement, sont en train de m'exhorter encore et qui exercent l'hospitalité envers nous. Et Diane a supporté Michel dans son ministère et dans des très mauvais jours aussi. Puis Doug aussi a passé des mauvais jours. Mais ils sont encore ici pour nous. Pourquoi parler de ces deux hommes en considérant la vision? Mon point est extrêmement simple. Il nous donne un héritage. On part pas de rien. On part pas de rien. Doug nous interpelle par sa vie à étudier, à être discipliné dans la vie. Et en ça, c'est un modèle pour nous. Et Michel nous interpelle à avoir un cœur pour les âmes. Et ça doit nous interpeller aussi. Michel, modèle de berger, et Doug est un étudiant. Faisons une synthèse de toutes ces pensées. Avoir une pensée juste à propos de Dieu à travers l'étude existe pour servir de fondement afin de trouver un équilibre. pour Dieu. C'est deux choses que je retiens, que je mets ensemble dans la vie de ces deux hommes qu'ils me lèguent. Et donc, j'ai encore des courriels de mes premières prédications que j'ai faites depuis des années, que je garde, où ce qui, avec amour, il m'envoyait des correctifs, puis qui veut, à quelques occasions, je les rouvre. Il est prêt à se donner pour nous. John Piper a dit ceci. Connaître des choses juste à propos de Jésus ne produit pas automatiquement des affections qui sont justes. Mais connaître des choses justes à propos de Christ est essentiel pour avoir des affections justes envers Dieu. Et Doug et Michel nous laissent un héritage et ça pointe vers ça. Frères et sœurs, la Bible nous invite à imiter leur foi. Si je lis le texte, il ne dit pas « imiter vos conducteurs ». Ou ben non, faites toutes les décisions qu'eux autres ont prises. Il dit, imitez leur foi. Voyez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Observez ça, étudiez ça. C'est des modèles pour vous. Hébreux, il y a deux chapitres où ce qui fait des listes de personnes dans la Bible, Moïse, Joseph, puis les autres, comme modèles pour nous de foi. Et ici, l'auteur aux Hébreux, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en dehors de ça, vous avez des modèles de foi vivants. Et je suis content de le faire aujourd'hui pour leur dire mon appréciation pendant qu'ils sont vivants. Et je ne veux pas oublier les autres anciens dans l'Église qui ont bâti. Allez leur dire. Ils sont présents encore parmi nous. Et la Bible nous interpelle à imiter leur foi, se remémorer afin qu'on se rappelle que c'est une foi authentique qui fera en sorte que votre vie va avoir un impact dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a eu un impact dans nos vies? Le texte nous le dit. Vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ils nous annoncent la parole. Ils la lisent, ils l'étudient, ils la vivent, ils la manifestent devant nous. Et la Bible dit, regardez ça. C'est vos modèles vivants, c'est vos directeurs, c'est vos conducteurs. On a tendance à mettre des personnes sur des piédestals et à dire, « Ouais, ça, c'est des hommes de Dieu. Dieu, il a fait des grandes choses avec eux autres. Moi, il ne ferait pas ça avec moi. » Tu sais, Doug, je veux dire, tu sais, 2-3 doctorats, puis tu sais, maîtrise là-dessus. Puis tu sais, Doug, moi, il ne ferait pas ça avec moi. Il faut remarquer qu'il ne dit pas imiter leur vie, leurs décisions, mais leur foi. Et pour être sûr que si on a cette réflexion-là qui nous amène à dire, ah, Dieu les a utilisés, moi, il ne peut pas faire ça avec moi. Lisez le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Imiter leur foi de ce grand Dieu qui a manifesté leur grâce dans leur vie pour nous, et nous, on va imiter ça parce qu'on est exactement le même Dieu. Et peut-être qu'un jour, vous allez avoir une photo. Je suis supposé d'en avoir, mais finalement, je n'ai pas réussi à les avoir. Peut-être que vous allez avoir une photo, quelqu'un va faire une prédication, puis ça va être vous qui allez être là. Et je vous appelle à être des héros et non des zéros. Mais continuons notre réflexion aujourd'hui. J'ai deux sujets que je vais amener. Ils nous laissent un héritage, et maintenant, on va regarder la fondation d'une vision biblique, puis la dynamique de la vision dans l'Église. Encore une fois, manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose, la vision sert de fondement à la planification stratégique dans une organisation. Quand on parle de vision, on parle d'organisation, c'est clair. On parle de mission, de raison d'être, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça nous amène à réfléchir. La Bible a plusieurs expressions quand elle parle de l'Église. Elle parle, par exemple, que l'Église, c'est un bâtiment, c'est une épouse, que c'est un corps. Et si on prend, par exemple, le bâtiment, dans Matthieu 16, 18, où ce que Jésus parle à Pierre et dit, « Sur cette pierre, je construirai, je bâtirai mon Église. » Et même s'il illustre l'Église à partir du bâtiment, ce qu'il a en vue, ce n'est pas un bâtiment. Parce que Jésus n'a pas construit tant de ses mains. Mais il dit, je vais bâtir mon Église. Premièrement, il fait inévitablement référence à des personnes. Deuxièmement, c'est qu'il dit, je vais bâtir. L'Église m'appartient, c'est moi qui vais construire. Et troisièmement, c'est une Église qui est en croissance, qui est en formation, ou ce qui va ajouter des disciples. Et si on parle de l'Église, il ne faut pas le faire en termes de bâtiment. C'est important, un bâtiment, ça nous permet de nous rassembler, on a chaud, on peut avoir l'air climatisé, on peut se rassembler, on a des locaux pour enseigner les enfants. C'est pas que c'est pas important, mais mon point ici, c'est ceci. C'est que la vision doit être en accord avec les buts fixés par Dieu. Et depuis des années, on a pensé la vision souvent en termes de bâtiment. Ça a monopolisé notre argent, ça a monopolisé notre temps, ça nous a monopolisé notre énergie, des longues discussions. Et si on regarde notre budget qui est extrêmement difficile, il est très improbable, voire impossible, qu'on puisse agrandir à moyen terme. Et on doit se poser la question, si on veut avoir des buts fixés par Dieu, on doit poser la question, est-ce que le Seigneur veut nous montrer à agir ou à faire les choses d'une façon différente? Et si la réponse à cette question, c'est oui, la deuxième question, c'est sommes-nous prêts? Et si c'est non, on est en train de s'en aller dans une impasse. Mais quand on parle de ça, on parle de notre mission, on a tendance à parler d'un texte, notre grande commission, qui se trouve à être Matthieu 28. Enfin, je vous invite à tourner dans Matthieu 28 pour regarder quelques principes sur notre commission. La grande commission qu'on a à la fin, Jésus qui est ressuscité, qui annonce à ses disciples qui l'adoraient, qu'on voit au verset 17, il leur annonce au verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui est ressuscité s'est acquis une église et commande à ses disciples d'annoncer un message clair, l'Évangile, d'annoncer la repentance et comme signe d'obéissance, des baptisés et ensuite de ça, des enseigner à observer les prescriptions. Voici la grande commission. Le bâtiment peut servir, peut être quelque chose de très efficace pour pouvoir bâtir et faire ces choses-là. Mais ici, il ne parle pas de bâtiment. Si le bâtiment à Cap-la-Madeleine brûle, là, est-ce que l'église du Cap-la-Madeleine peut exister quand même? Oui, on y ira chez nous, on y ira chez Doug, on y ira dans le parc en face, mais Cap-la-Madeleine peut continuer à exister. Mais ça nous parle aussi de faire des disciples, d'aller vers toutes les nations. Mais ce n'est pas la première fois dans Matthieu qu'il nous donne un commandement d'aller vers les nations. Par exemple, dans Matthieu 5:16, il nous dit une autre chose semblable. Il nous dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Elle a notre commission. Avez-vous déjà remarqué le mot « évangélisation » intrinsèquement, là, en lui-même, il y a le mot « évangile ». C'est une subtilité, là. Mais si j'annonce pas l'évangile, puis je me consacre à parler, par exemple, je ne sais pas, moi, juste de la création, ou je fais juste parler d'un changement de vie que la religion chrétienne peut nous parler. Je ne suis pas en train d'annoncer l'Évangile. C'est l'Évangile qui change des vies. C'est cet Évangile-là qui veut qu'on applique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens, c'est l'Évangile de gloire. Et quand on vit cet Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on a une lumière qui glorifie Dieu parmi les ténèbres dans le monde. Et maintenant, il nous donne cette commission d'aller et de faire les disciples. Et si l'Évangile n'est pas au centre de la mission de l'Église, c'est pas faire des disciples, parce qu'on fait des disciples par l'Évangile. Nous faisons des disciples dans la proclamation de cet Évangile. Et remarquez qu'il ne dit pas « Enseignez-leur toutes mes prescriptions. » Mais il dit « Observez, enseignez-leur à garder ou à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le but, c'est qu'on applique cette parole dans notre vie. Je peux enseigner à un perroquet tout ce que Jésus a prescrit. Mais un perroquet ne sera jamais capable d'observer ce que Jésus a prescrit. Ce n'est pas dans la nature du perroquet. Et j'aimerais vous suggérer que ça ne donne à rien de baptiser un perroquet. Mais il veut qu'on observe, qu'on mette en pratique. Si l'objectif, c'est l'obéissance, puis c'est ce qu'il demande, là. Faites ceci, faites cela, puis c'est l'objectif, c'est l'obéissance. La stratégie qu'on doit adopter doit correspondre avec la stratégie que Dieu nous donne à faire. Et si l'objectif de l'obéissance est finalement la gloire de Dieu, alors il est probable que la proclamation que Dieu va utiliser soit une proclamation qui garde sa gloire centrale. Et dans notre Église, on a parmi les générations qui nous précèdent des personnes qui ont étudié la Bible, qui ont étudié l'Évangile, qui l'ont mis de l'avant, et j'ai nommé deux exemples aujourd'hui, et ils nous laissent en héritage qu'il faut perpétuer ça dans notre Église. La dynamique de notre vision. Quand on parle à comment que ça fonctionne dans l'Église, comment que ça marche, ça? Comment qu'on met ça en branle dans l'Église? Et moi, ça me vient tout de suite à l'esprit, c'est Éphésiens chapitre 4. Et donc, je vous invite à tourner dans Éphésiens chapitre 4. Quand on parle de la dynamique, comment que ça se met en place? Comment que les relations sont créées? Comment que la vision peut nous influencer? Comment ça fonctionne? On est au verset 7. Chapitre 4, Éphésiens, verset 7, chapitre 4. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Les six versets qui précèdent ce verset nous parlent de l'unité dans le corps de Christ. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un corps sur ma diapositive, parce qu'on parle du corps de Christ. Et cette unité, bien, on voit qu'à sept reprises, il y a le terme « un » ou « une » ou « uni » dans le verset 4, 5, 6. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père. Et cette unité, Paul change pour nous parler de la diversité. Et dans cette diversité, on va arriver dans notre fonctionnement à préserver l'unité. Comment? En ce qui a fait des dons à des personnes, puis ces personnes vont manifester les dons. Et après le verset 8, de 8 à 10, Paul nous dit le fondement sur lequel il peut faire des dons, c'est parce qu'il est souverain. Et vient le verset 11, et on peut lire le verset 7 et 11, parce que 8 à 10, c'est probablement une parenthèse. Il nous dit, mais à chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Christ, verset 7. C'est lui qui a donné comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de du service, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 12 pointe vers le processus par lequel l'Église va croître. La croissance de l'Église peut être comprise de deux façons. La première, c'est en termes de maturité, de perfectionnement. On amène des personnes à la maturité chrétienne. Et il y a des dons ici, comme pasteur, docteur, qui servent à ça. Mais on peut comprendre aussi la croissance de l'Église en termes de nombre de personnes. Parce qu'il laisse quand même des évangélistes dans l'Église pour qu'ils puissent faire le perfectionnement du peuple en vue qu'eux puissent faire l'œuvre du ministère. Et dans ce cas-ci, ça serait des évangélistes. Et quand on arrive à la fin, au verset 16, de lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qu'il soutient fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est raisonnable de comprendre l'énumération des dons faits au verset 11, comme des aides qui dirigent les autres membres du corps afin que tous puissent faire l'œuvre du ministère. Notez les termes « s'édifie » lui-même. L'unité du corps est conservée et augmentée quand tous ceux et celles qui ont des dons, c'est-à-dire tous les chrétiens, c'est ça qu'il dit le verset 7, tous les chrétiens font l'œuvre du ministère. Et il y a des personnes qui sont là pour vous perfectionner à ça, afin que vous le fassiez. Et si vous ne manifestez pas vos dons dans le corps de Christ, l'Église est privée de ça. J'ai un ministère envers vous, mais vous en avez un aussi envers moi. Doug, Michel Penneau en ont eu un envers nous pendant des années. Maintenant, c'est à nous aussi. On en a un ministère envers eux. Et l'unité dans l'Église, ce n'est pas exclusivement le rôle des anciens. Et quand va venir les temps difficiles, et j'aimerais vous dire qu'ils sont présents, là, les temps difficiles, puis les grosses discussions sur la structure de l'Église, puis qu'on va commencer à discuter de ces choses-là, puis qu'on va se poser la question, il faut préserver l'unité, c'est pas nécessairement le rôle des anciens de préserver l'unité, c'est à vous. Comment? En manifestant avec amour vos dons dans l'Église. C'est ça qu'Éphésiens veut qu'on fasse. Il va inévitablement avoir des décisions qui ne feront pas votre affaire dans l'Église. C'est sûr. Mais l'unité va être préservée par vous, pas juste par les anciens. Les anciens, ils ont un rôle à jouer, le texte nous le dit. Mais ce n'est pas facile d'être ancien ou être diacre. Ou, c'est facile de critiquer le trésorier parce que vous auriez fait ça différemment. Mais quand on est autour de la table avec les diacres, puis qu'on pose la question, OK, là on fait l'élection des postes, qui veut être trésorier? Puis que ça prend 3 semaines d'en trouver un parce que personne ne veut y aller. Puis qu'on sait que ça va être difficile. Mais c'est facile de dire, moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas géré ça comme ça, moi je suis prêt à lâcher, je vais changer d'église, je vais faire telle chose. Mais que nous autres aussi, on se regarde puis on se dit, il n'y a pas grand monde qui a le goût de le faire, le job de trésorier. Puis on est pris avec des problèmes, mais quand est-ce qu'on va le soutenir, notre trésorier? Puis c'est pas facile d'être ancien. Tu fais cette décision-là, mais ce groupe-là sera pas content. Puis si tu prends cette décision-là, bien ce groupe-là sera pas content. Puis si tu ne prends pas de décision, personne ne va être content. Mais supportons les anciens. Ils sont présents parmi nous. Allez leur dire qu'on les aime, qu'on les supporte, qu'on est avec eux. Ah, c'est peut-être pas votre style de prédicateur, c'est peut-être pas votre berger que vous pensez que vous aimez, mais il donne sa vie pour votre bien, pour votre joie dans votre vie, pour vos âmes. Mais le texte parle quand même à des personnes responsables. Voici un petit message. Des leçons que j'ai tirées aux anciens et finalement à tout leader. Je les adresse aux anciens, sont tirés du texte, mais en même temps, si vous êtes père de famille, ça s'applique à vous. Vous avez un ministère auprès de l'école du dimanche, ça s'applique à vous. Vous êtes mère au foyer, ça s'applique à vous. Vous avez un job responsable au travail, ça s'applique à vous. Éphésiens nous invite à considérer la croissance d'Église, non pas en termes de possibilités ou de choix, mais plutôt comme un processus inévitable du travail de Dieu à travers les dons qu'il nous a donnés. Et par conséquent, il faut être proactif et intentionnel dans nos activités. Il faut être intentionnel de voir les dons se manifester. Mais vous qui avez des dons, il faut être intentionnel pour vouloir les manifester aussi. Vous devez être rassembleur et il faut s'interroger sur la façon qu'on peut être rassembleur pour qu'on ait une vision et pas tous des blocs défaits dans l'Église comme ça qui gèrent à sa façon. Une vision, un corps, un salut, un seul Seigneur. On veut pointer vers ça. Un seul Évangile. Il faut le garder central. On l'a en héritage. Perdons-le pas, frère. Fonctionner comme un corps. Et pour fonctionner comme un corps, il faut que les bons membres soient à la bonne place. Un bras sur une bedaine, ça ne donne rien. Mais c'est à ce point-ci que ça blesse. De dire à des personnes qui peut-être ne sont pas à la bonne place, et peut-être que c'est vous. Il nous parle d'un corps ordonné, cohérent dans notre fonctionnement. La croissance de notre assemblée dépend de ça. Il tire son accroissement dans une mesure qui convient à chaque partie quand il est bien placé. Je termine par deux choses. Une exhortation et un encouragement. Vous voyez, la dynamique de l'Église, c'est fort simple. J'exerce un ministère d'amour envers vous. Doug, Michel ont exercé un ministère d'amour pendant des décennies pour vous. Et vous faites un ministère d'amour aussi avec vos dons envers eux. Et donc, arrêtons de penser à nous-mêmes et manifestons nos dons pour les autres. Et si l'autre à côté fait exactement la même chose, on va avoir toute une dynamique dans l'Église. Toute une dynamique. Je veux vous inviter au ministère. Et j'aimerais donner un ministère qu'on ne voit pas. Et à ce point-ci, ça va surprendre. J'ai le ministère d'exhortation. L'exhortation fait partie des dons spirituels de Romains 12. Et j'aimerais vous donner deux exemples concrets de ça dans notre Église. Et j'ai nommé Roch Bolduc et Paul Hart, qui sont assis en arrière là-bas. Ils ont une capacité physique très limitée. Mais c'est souvent les premiers qui viennent me voir pour m'encourager après une prédication ou avant une prédication. Et cette semaine, je pensais à eux. Écoute, ils marchent à 1 km/h avec sa marchette, mais ils trouvent quand même le moyen d'exhorter puis de prendre la peine de venir me voir, de me serrer la main puis de dire « je suis content pour telle chose ». C'est pas pour m'enorgueillir puis péter les bretelles. Parce que nous, on a développé ça dans notre Église, je pense. On a tendance à pas trop aller encourager, puis je l'ai entendu plusieurs fois. Ouais, mais il va s'enorgueillir avec ça. Fait que j'irai pas l'encourager. À la place de dire il va s'enorgueillir, va, encourage-le, puis regarde comment il vit avec l'encouragement. Puis s'il s'enorgueillit, va et reprends-le avec amour. C'est ça qu'Éphésien dit. Et là, ben, on va voir s'il est enseignable. Puis on va voir plein de choses qui vont sortir de ça. On n'a pas idée comment ce genre de ministère qu'on parle quasiment pas peut être efficace. Pensez à tous les professeurs d'école du dimanche. Charles O'Connor, il m'a enseigné pendant que j'avais à peu près 10 ans. Je reviens 10 ans plus tard dans l'Église. Charles est encore là. Puis la première année que j'ai été assis avec les diacres, il y a 7 ans, Charles était en face de moi. Il m'enseignait à l'école du dimanche. Je me souvenais de lui, puis du temps qu'il a donné pour moi, puis les rencontres avec mes parents. Dans un camp, tous ceux qui marquent votre vie. Pensez à tous ceux qui lavent les toilettes. Tous ceux qui déneigent l'entrée, qui passent la mop, qui viennent prendre de leur temps afin que vous ayez un vestibule quand vous allez venir vous marier, qui va être propre, qui va être accueillant. On va-tu les voir? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé voir un ancien pour lui dire « j'ai apprécié ce que tu as fait » ou un diacre ou n'importe qui dans l'Église? L'encouragement, et c'est mon dernier point, je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 1. C'est vraiment le fruit de mon cœur que je déverse aujourd'hui. La vision dans une église, c'est ce qui fait que je vais adhérer à cette église. Si une église manque de vision, je vous annonce que je m'en vais. Ça, c'est clair. J'ai la vision de l'Évangile. Et j'aimerais la garder au centre parce que mes héros de la foi, pour moi, ils ont donné leur vie pour ça. Et quand je regarde leur ministère, je pense à 2 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. « Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme, c'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. » Dans le contexte, Paul a des choses extrêmement difficiles à dire. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais j'ai été assez direct, je pense, dans quelque chose en avant de l'Église, et je n'ai pas caché les sentiments que j'ai pas parlé des projets que j'avais, j'ai plein d'idées, je suis prêt à discuter de plein de choses. Le but, c'est pas de mettre mes idées en avant, c'est qu'on fonctionne comme un corps. Et peut-être que c'est difficile, parce que on sent qu'il faut sortir de notre zone de confort, mais Paul, ici, dans le texte, c'était exactement ça. On attaquait la crédibilité de Paul. Il y a des personnes qui disaient que ce n'était même pas un apôtre. Il y a des personnes qui suivaient en arrière de Paul pour dire, « Regarde, oubliez ça, là. Et c'est un petit minable, ces prédications, ça ne vaut rien. » Il y a de l'air de rien. Il y avait une écharde dans sa chair. Il venait d'envoyer une lettre avant, c'est la deuxième lettre, mais la première lettre n'était pas facile aux Corinthiens. Puis là, il faut qu'il défende son ministère, puis ce n'est pas facile, puis en plus, il n'est peut-être pas physiquement beau, puis grand, puis fort. Tu sais, si la revue Time avait été là au premier siècle du Moyen-Orient, puis qu'il aurait fait une revue des 100 plus beaux gars, Paul n'était peut-être pas là. Mais il n'était pas motivé par ça. Il n'était pas motivé par ça. Il dit en quelque sorte, je veux être là et je fais le ministère que j'ai et je vous écris et je dis des choses difficiles pour votre joie. Et c'est exactement les pensées que j'ai en arrière de la tête aujourd'hui. Ce qui alimentait Paul, c'est une joie profonde en Jésus-Christ qui va au-delà des choses difficiles qu'on peut dire. Et Paul nous dit qu'il peut dire ces choses parce qu'ils sont fermes dans la foi. Cap la Madeleine, êtes-vous ferme dans la foi? Il faut se dire les vraies choses. Et la façon que vous allez réagir dans les temps difficiles va démontrer votre fermeté dans la foi. Jonathan Edwards a dit ceci. Dieu a créé l'homme pour cette fin, à savoir qu'il veut communiquer la joie en lui. Le but ultime du ministère pastoral, de tout ministère, c'est exactement ce pourquoi il nous a créés, pour sa gloire. Pour qu'on trouve une joie dans sa gloire. Les philosophies d'aujourd'hui nous disent qu'on doit toujours trouver plus de plaisir en nous-mêmes et pour nous-mêmes, puis tant mieux si vous en le trouvez dans le service, mais Paul va plus loin que ça. C'est une joie qui est durable, qui est profonde, qui est beaucoup plus grande que ce que les circonstances peuvent nous donner. Voyez ce que Pierre dit dans 1 Pierre. Il dit 1 Pierre 1, 8, je fais juste le citer. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. » Nous sommes créés pour sa gloire et le ministère, tout ministère, est pour sa gloire. Réjouissez-vous. Même dans les ministères insignifiants qui nous paraissent petits et rien, réjouissez-vous parce que vous êtes en train de travailler pour la joie du peuple de Dieu et en ça, Dieu est glorifié. Trois choses. Souvenez-vous de vos conducteurs, des modèles de foi. Imitez pas leurs décisions. Imitez pas leur vie. Imitez la foi de ce Dieu qui a travaillé par leur vie et qui nous laisse en modèle. Et la Bible nous dit, souvenez-vous-en. Il y en a qui sont encore vivants ici dans l'Église. Allez les voir. Deuxièmement, soyez investis dans la vision biblique parce que c'est une vision qui est biblique, qui garde l'Évangile central et qui pousse vers un engagement. Et la semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir. Et exercez vos dons pour l'édification du corps. C'est à la fois une exhortation que je vous lance, mais un encouragement de travailler pour la joie des autres. Et la semaine prochaine, on va s'émerveiller de cette grâce qu'il nous a laissée. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, quelle joie de t'appartenir. Mais en même temps, on veut s'oublier. Et tout comme Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue pour que tu puisses croître. On veut diminuer en tant que personne dans cette Église pour se donner envers ton corps, pour que le corps puisse grandir. Tu nous donnes des dons, Seigneur, et on est redevable de ça. Et je veux te prier pour les anciens qui sont là pour nous perfectionner afin qu'on puisse les manifester. Et Seigneur Dieu, merci pour les conducteurs que tu nous as laissés, Seigneur. On ne veut pas les oublier. Tu as travaillé dans leur vie. Tu nous dis d'écouter, de regarder, de les observer pour qu'il y ait un impact dans nos vies, Seigneur. Et qu'on n'oublie pas ce qu'il nous laisse en héritage. Afin que par le même Dieu qui nous donne la même foi, on puisse vivre pour toi, pour te glorifier, Seigneur. Sois glorifié dans nos réflexions sur la vision, dans nos changements d'attitude, dans les discussions. crée un vent d'exhortation, d'amour et de service dans l'Église. Pas de critique, pas d'amertume, mais d'amour, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Fais ça, Seigneur, pour ta gloire. Amen.